France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Quelle joie de recevoir aujourd'hui Patrick Bruel en tournée après la sortie de son album Encore une fois, un titre bien choisi pour celui qui poursuit la route depuis le début des années 80 entre cinéma et chanson. Il aime parler d'amour, de lui-même et du monde où nous vivons, mais ce sera aussi l'occasion de nous promener dans les goûts musicaux très éclectiques de Patrick Bruel, de Jacques Brel à Chico Buarque, en passant par Barbara ou Barry Manilow. L'un des artistes les plus aimés des Français est avec nous ce matin sur France Musique.
Lorsque l'amour est tombé par terre, on croit mourir mais on survit. Dis-toi que tu vas faire une affaire, vu que mon cœur a déjà servi. Si tu savais, je suis moins naïf qu'hier, et pourtant je t'aime aujourd'hui. Comme si t'étais la première. C'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie. Encore une fois, encore plus fort, on se dit plus jamais. Mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi. C'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore plus fort, on se dit plus jamais. Mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi. C'est maintenant et c'est là. Encore une fois, c'est maintenant et c'est là, encore une fois.
Bonjour Patrick Bruel.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de vous retrouver sur ce titre qui ouvre votre dernier album. Alors, je ne sais plus si ça s'appelle Encore une fois ou Une fois encore l'album.
Encore une fois est le titre de l'album et Une fois encore est le titre de la réédition.
De la réédition, avec des nouveaux titres en plus.
Avec quelques nouveaux titres en plus.
Mais les deux commencent donc par cette belle chanson, Encore une fois.
Et le spectacle également.
Et le spectacle également.
Puisqu'encore une fois, on se retrouve, encore une fois, on repart, encore une fois. On peut s'aimer encore une fois.
Avec des très bons musiciens et notamment votre complice, on peut dire déjà depuis très longtemps.
Depuis un bon moment, Benjamin Constant,
nom d'un grand écrivain, mais aussi donc d'un excellent musicien.
Oui, que j'ai connu quand il avait 17 ans, il était arrivé comme stagiaire chez moi et c'était en 1997. Voilà, et depuis, on ne s'est jamais quitté.
Voilà, il est donc un petit peu...
Directeur musical.
Directeur musical pour ce nouvel album qui est suivi d'une tournée. Alors évidemment, ce titre, encore une fois, je voulais le prendre pour commencer aussi parce que c'est assez emblématique au fond de votre vie, quoi. Encore une fois, vous repartez sur les routes, encore une fois, après tant de disques, tant de concerts, on pourrait dire, tiens, maintenant, il pourrait avoir envie de se reposer un petit peu, de rester chez lui tranquille, de faire d'autres choses, d'écrire des livres, je sais pas quoi, mais non, vous avez besoin...
Ça n'empêche pas, je pourrais aussi écrire des livres, mais arrêter la scène...
C'est pas possible.
Enfin, tant qu'on m'y oblige pas, c'est là où je prends le plus de plaisir, c'est là où je me sens le mieux, puis là, les concerts ont commencé depuis une semaine, on a fait ces deux concerts à Bercy... incroyable, franchement, le public est là, le public répond, c'est une dose d'affection exceptionnelle, liée à un propos, liée à une histoire, liée à... C'est un rendez-vous, c'est un beau rendez-vous, donc évidemment j'aurais beaucoup de mal à m'en passer.
Avec un renouvellement aussi, on peut dire, des générations.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Moi j'ai été frappé, j'ai une nièce qui a tout juste 30 ans, mais qui est une fan absolue de Patrick Bruel, comme était déjà sa mère.
Aujourd'hui on a vraiment un renouvellement impressionnant, ça va, et même le week-end, il y a même des enfants très jeunes,
et 4
ans, 5 ans, 6 ans, et il y a des personnes âgées aussi, beaucoup plus âgées qu'avant. Ça va de 4 à 84, avec vraiment tout ce monde fait bon ménage pour recevoir ses émotions, et ces moments de partage, c'est extraordinaire.
Cette tournée... puisqu'on est sur France Musique, on va parler quand même un peu de musique. Musicalement, elle se présente comment sur scène? La bande, la couleur
Là, c'est une apparition très rock, si j'ose dire. On est quatre, il y a quatre musiciens et moi.
C'est le versant rock de Bruel, chanteur pop.
C'est très pop, c'est pop, c'est groupe, en fait. C'est plutôt ça que je voulais dire.
C'est ça
fait groupe. On est vraiment très ensemble, très, il y a beaucoup d'osmose. À la fois, il y a un mélange de choses très organiques et de programmation. Il y a des côtés très intimes, guitare-voix où je suis tout seul, ou piano-voix où je suis tout seul. Et puis, il y a des moments de grosses, grosses productions qui vont avec des écrans gigantesques et qui racontent une histoire sans jamais perdre l'intimité, sans jamais perdre la proximité.
Et sans priver le public des gros tubes dont vous pourriez avoir, avoir marre au bout d'un moment.
J'ai cette chance de, c'est de pas en avoir marre, justement.
Non, vraiment?
Je suis plutôt content parce que je pourrais comprendre.
Vous chantez casser la voix, vous n'êtes pas du tout ennuyé.
C'est impossible de ne pas chanter, qui a le droit à leur regard, place des grands hommes, casser la voix. Enfin, c'est impossible de ne pas les chanter. Et puis en plus, j'y prends beaucoup de plaisir. Et en plus, pour un artiste, c'est très rassurant parce que ce sont des pylônes au milieu des spectacles qui vous redonnent de l'air pour pouvoir justement imposer des chansons un peu moins connues. Quand on en arrive à bien rythmer tout ça, ça, c'est chouette.
Bon, ben, en tout cas, je suis très heureux de vous recevoir ce matin sur France Musique. Vous étiez venu il y a une dizaine d'années déjà. Bon, il s'est passé pas mal de choses depuis. Mais néanmoins, c'est le principe un peu de l'émission. J'avais envie de remonter un peu le temps avec des musiques que vous aimez, des musiques connues ou moins connues, mélangées avec les vôtres, bien évidemment. Alors, on va commencer par une petite Madeleine générationnelle. Moi, je suis né en 60. J'ai un an tout juste de différence avec vous. Et je crois qu'on a tous les deux grandi avec notamment ça.
Générique commençait, ma mère était, regardez, vraiment, c'était, j'avais des larmes aux yeux dès que le générique commençait, c'était
c'est
fou, non, mais il y avait quelque
des
chose.
Larmes.
Oui, il y avait des larmes aux yeux de joie, d'attente, et puis de, on sent la cavalerie.
Ouais, oui, bien sûr.
Il y a une espèce de cavalerie vers quelque chose.
On précise quand même, c'est Thierry Lafronde.
Thierry Lafronde, hein, oui, bien sûr. Je m'identifiais tellement à Thierry Lafronde.
Joué par Jean-Claude Drouot, musique de l'excellent Jacques Loussier. Voilà, vous auriez peut-être pu mettre aussi Bonne Nuit les Petits, Nicolas et Pimpronel, Zorro. Ah oui, Zorro. Vous, c'était plutôt les hommes d'action.
C'était
oui.
Zorro et Thierry Lafronde. C'était mes deux. Bon. Et aussi le Manège Enchanté.
Il y a quand même une différence entre nous, c'est que moi, je voyais toutes ces choses-là chez mes grands-parents, parce que chez mes parents, il n'y avait pas encore la télé. Donc vous avez eu très tôt la télévision.
J'ai eu la chance qu'on ait une télé dès le début, une télé noir et blanc. Enfin, quand on était quand on est arrivé d'Algérie,
à Argenteuil,
là on a eu une télé. C'est quand on s'est retrouvé à Paris en 69, quand on est arrivé dans le Paris 13e, là pendant un an et demi, deux ans, on n'avait pas de télévision. Et là, j'allais regarder les matchs de rugby assis sur une machine à laver chez Darty. Le premier magasin Darty était à l'angle de Nicolas Fortin, l'avenue de Choisy, et j'étais assis sur une machine à laver pour regarder les tournois des Cinq Nations.
Et vous avez, alors Patrick Bruel, développé très jeune une qualité dont il y en a certains qui voient ça comme un défaut. D'ailleurs, moi, je crois que c'est une qualité, comme vous, que vous revendiquez souvent. C'est un grand éclectisme dans vos goûts, justement, musicaux, dans tout ce qui vous a formé. Vous aimiez aussi bien, même quand vous êtes devenu un petit jeune adolescent ou autre, vous aimiez aussi bien Gérard Lenormand que les Rolling Stones. Vous pouviez écouter toutes sortes de musiques.
Oui, parce qu'en fait, j'ai grandi tout de suite avec mes premières émotions musicales réellement, c'est Brel, c'est Barbara, c'est Brassens, c'est ce qu'on écoute à
ça,
la
c'est
maison.
C'est la chanson.
C'est le Requiem, c'est la Pastorale.
Oui, alors un des premiers cadeaux que vous faites offrir enfant, c'est le Requiem de Mozart.
Ouais. Mon père m'avait offert le Requiem de Mozart, il m'avait offert ça, et la septième de Beethoven. Qui était...
Et c'est quoi ce moment où vous vous êtes retrouvé à Rome, où vous faisiez à la fois le guide touristique et vous alliez écouter la Tosca au terme de Caracalla?
Ouais, ça c'est, j'avais 10 ans, l'année d'avant.
C'était en voyage, hein?
On était en voyage avec ma mère. L'année d'avant, on était déjà à Vérone et elle m'avait emmené voir Aïda.
Pour l'opéra à Vérone, déjà.
Ouais, pour voir l'opéra de Vérone. Mon premier opéra, c'était Aïda à Vérone, dans les arènes. Vous imaginez, quand on a 8 ans, c'est complètement fou.
Ouais.
Et autour de 9 ans et demi, 10 ans, on était à Rome et je dis à maman, ils ont un opéra ici aussi. Elle a souri, elle m'a dit oui, je crois. Et puis, et me voilà, parce qu'à l'époque, elle avait une histoire avec un monsieur qui avait un hôtel à Rome.
C'était un italien.
Et donc, moi, comme je n'avais pas grand chose à faire de mes journées, je rentrais dans le bus touristique, voilà. Et je faisais faisait visiter Rome aux touristes. Et moi, j'étais tellement content de pouvoir parler dans le micro.
Vous aviez donc ce tempérament déjà d'aimer vous produire en public, d'une certaine façon.
Et donc, elle m'avait emmené voir Tosca dans les temps de Caracalla. Donc, deux opéras aussi forts à cet âge-là. Et au même moment, j'avais un oncle dans la famille qui est passionné de musique classique et qui va finir assistant de Jean-Pierre Ponnel.
C'est ça.
Donc, ça fait beaucoup de choses.
Un bain très classique.
Ouais, et la musique classique va faire partie de ma vie jusqu'à encore aujourd'hui, puisque c'est quelque chose de très important pour moi.
Sauf que le jeune Patrick Bruel, qui commence déjà d'un côté à penser à la musique, se passionne aussi beaucoup pour le théâtre, pour la comédie, avec d'ailleurs un tempérament comique apparemment, parce que à l'école, vous jouiez déjà tous les Molières avec passion.
Oui, tous les Molières qu'on nous proposait de jouer au lycée. Ouais. Il y avait un club de théâtre au lycée Henri IV qui était super chouette. Et dès la sixième, j'ai joué le médecin volant. En cinquième, j'ai joué le médecin malgré lui ou l'avare. Tous les ans, on faisait une pièce jusqu'à la terminale où là, j'ai fait Knock.
Ah oui,
on est sorti de Molière.
Mais je veux dire,
le théâtre était là, ouais.
Et puis le chanteur Patrick Bruel est souvent lyrique, un côté presque romantique. Mais le jeune Patrick Bruel, comédien, était plutôt un comique.
Ça dépend. J'ai eu beaucoup de personnages très différents. Ouais. Mais c'est vrai que mon emploi au début, c'était Scapin. Voilà. J'étais vraiment fait pour être dans ce registre-là. Et puis après, voilà, l'histoire fait qu'on peut être tout aussi à l'aise dans Le Coup de Sirocco, Un secret de Miller, ou jouer le prénom. Voilà, tout est possible. À partir du moment où on est le personnage.
En somme, donc, vous pensiez déjà un peu à être chanteur. Vous avez beaucoup travaillé le théâtre. Vous avez été finalement recruté d'abord par le cinéma avec Alexandre Arcadie et Coup de Sirocco en 79. Et puis vous êtes, dans les années d'après, revenu justement pas mal au théâtre. Et je voudrais vous faire écouter une dame que j'adore, que j'ai pas eu la chance de connaître, mais qui est une artiste merveilleuse. Je suis sûr que vous allez la reconnaître.
À me voir comme ça, vous devez penser, cette femme n'a jamais dû pleurer. Sachez pourtant que mon existence ne fut longtemps qu'un drame immense. Papa, maman, mes frères, mes sœurs vantaient partout mon air rieur, et chacun me croyait heureuse. Papa, dis tout, j'étais nerveuse. Tellement que j'allais voir un docteur.
Tousser, 33, voyons le cœur. Je vois ce que c'est.
Petite madame, n'auriez-vous pas du vague à l'âme? Ou bien alors le grand chagrin? Je répondis, je n'en sais rien, mais je rêve la nuit de choses curieuses, et ça me rend très nerveuse. Ainsi, tenez, quand sur l'écran, je vois s'embrasser deux amants d'un long baiser métaphysique, ça me rend neurasthénique. Et si le baiser est un final qui finit plus, ça me fait du mal. La tête me tourne, je me sens fiévreuse. C'est énervant d'être si nerveuse.
Ah, très grave, m'a dit le docteur. Je vois ce que c'est. Maladie de cœur. Vous êtes jolie et puis charmante. Il bafouillait ma tremblante. Merci, docteur, lui ai-je dit. Je vais me chercher un petit mari. Et j'ajoutais d'une voix moqueuse. Oh, il n'y a pas que moi qui suis nerveuse.
Un et puis deux. Deux et puis trois. C'est la même chose à chaque fois. Les mêmes mots. Les mêmes phrases, des tas de phrases et pas d'extase. Des moi ceci, des moi cela, des tu verras, et on voit pas. Puis cette question, alors, heureuse? Heureuse, pourquoi? Non, je suis nerveuse. Comment le dernier s'y est pris? Je n'en sais rien, il faisait nuit, et moi la nuit, ça me rend peureuse. Il peut se passer des choses affreuses. Et puis, je me souviens plus de rien, sauf qu'il m'a dit au petit matin. Alors, madame, toujours nerveuse? Nerveuse? Oh non. Je suis amoureuse.
Ah. La charmante Odette Laure, je suis nerveuse, j'adore cette chanteuse.
Quel bonheur de réécouter Odette.
Patrick Bruel, j'imaginais pas que vous l'aviez si bien connue sur scène, à vos débuts, pratiquement.
Tellement bien connue, elle a été tellement bienveillante, elle était tellement drôle, elle volait la vedette à Maria Pacôme.
On m'appelle Émilie, c'est ça?
C'est une histoire assez jolie, quelque part, et un peu spéciale, puisque Maria Pacôme a écrit la pièce.
Ah oui.
Elle a écrit le rôle pour Odette Laure. Et elle a vu Odette Laure embraser le public tous les soirs.
Oui.
Et elle s'est vue perdre la vedette, Maria. Et moi, j'étais là entre les deux à essayer de rabibocher tout le monde pendant toute cette pièce. Ça a été un moment formidable.
Vous jouiez quoi, vous, dans la pièce?
Moi, je jouais le... Parce que l'idée, c'est deux SDF, en fait, hein, qui ont ce môme dont elles doivent s'occuper. C'était moi. Et elle m'envoie faire de la musique ou faire la manche et tout.
Musique de Francis Lalanne, en plus.
Et c'est Francis, qui avait écrit la chanson. Très, très jolie chanson, Étoile du Berger. Et ça a été une expérience formidable. Et puis on apprend tellement au théâtre. Ça a été juste après le Charimari, en fait.
Alors justement, j'en profite parce que moi j'adore toutes ces artistes aujourd'hui un peu oubliés. Mais donc avant, il y avait eu Pierrette Bruno,
complice
de Bourvil. Vous lui devez beaucoup.
Je lui dois énormément.
En 81, parce que par là.
On est en 80. Fin 80, on est en novembre 80. Et Margot Capelier, qui à l'époque
était la grande dame du casting.
Directrice de casting. M'appelle et me dit est-ce que tu veux faire du théâtre? Je dis ouais, bon alors va voir Pierrette Bruno et cherche quelqu'un. Et je suis allé la voir et je suis arrivé dans son salon, j'arrivais du foot et j'étais là, machin. Elle m'a dit vous avez déjà fait du théâtre? Je dis non. Elle m'a dit ah bah dis donc, ça va être facile. Elle me fait lire et là je lis un personnage que je trouve pas mal et puis il y a le copain. Les réponses du copain que je trouve tellement drôles. Je dis, mais j'aime bien l'autre. Elle me dit, mais non, mais l'autre, il faut un petit gros, moche, rigolo. Je dis, pas besoin d'être petit, gros et moche pour être rigolo. Et j'ai lu. Et finalement, ça l'a séduit. Elle m'a dit, mais c'est un petit rôle. Je dis, c'est pas grave. Et moi, il me plaît plus que l'autre.
Ah, voilà.
Et en fait, elle m'a dit, cette phrase importante, elle m'a dit, tu as aucune chance de remporter l'audition au mois de juin prochain, parce qu'il y aura l'audition pour la pièce. Il y aura tous les gars du Haut Conservatoire, les gars de la Rue Blanche. Ça va être trop compliqué parce que t'as jamais fait de théâtre, t'auras pas cette technique-là. Elle m'a fait travailler de novembre à juin, tous les jeudis et tous les samedis dans son salon. Et elle s'est occupée de moi comme une professeure, comme une maman aussi. Et quand je suis arrivé à l'audition, évidemment que j'ai eu l'audition puisque je connaissais le rôle mieux que tout le monde.
Et il y a plein de jolies chansons d'elle avec Bourvil. Mais je précise encore que en plus dans le Charimari, moi je les aime beaucoup aussi tous les deux. Il y avait quand même aussi Micheline Boudet, grande dame du théâtre
du français,
venue de la Comédie Française, mais vraiment très grande figure qu'on retrouve dans des quantités de théâtre ce soir d'ailleurs. Et puis Pierre Tornade.
On a eu des fous rires qui parfois nous ont pas permis de continuer à jouer.
Voilà. Donc voilà, ça m'amusait de revenir à ce moment de votre vie.
C'est une très belle période.
Patrick
Bruel. C'est la période importante où on prend des morceaux de confiance en soi.
Voilà.
Ça vous donne confiance quand ces gens-là vous font confiance et quand le public vous salue, comme c'était le cas à l'époque, on se dit il y a quelque chose qui se passe. Alors peut-être qu'en travaillant un peu, on va peut-être réussir à arriver quelque part.
Dans cette alternance, après, la chanson donc revient avec un premier album qui a pas très bien marché. Hein,
non, mais une chanson qui a très bien marché.
Une chanson qui a explosé, qui est Marre de cette nana-là, que vous chantez toujours, j'imagine.
Oui, enfin, je la glisse dans un petit moment, mais pas tous les soirs. De temps en temps, je la glisse dedans, là, comme ça, c'est sympathique.
Voilà, et puis le vrai démarrage, si on peut dire, donc c'est avec l'album suivant, en 89, et avec la complicité de, on peut rappeler de quand même en quelques mots,
Presse
Gurvic, qui représente quelque chose d'important dans votre vie.
Très important, une rencontre à New York, et une rencontre d'un univers qui me parle, on devient amis, on va travailler ensemble, on va écrire des chansons.
Il vous a jamais proposé de faire des comédies musicales, lui qui est devenu un des grands faiseurs du genre, non?
Non, j'aurais pu en faire moi.
Oui.
C'était l'une des choses que j'ai pas faites parce que j'ai pas eu trop le temps, mais la comédie musicale, à partir du moment où on compose et qu'on raconte des histoires, on peut le faire. Mais j'ai pas eu le temps de faire ça.
Voilà, nous voilà donc en 89 avec les premiers très grands succès, et notamment celui-ci.
Si ce soir, j'ai pas envie de faire. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix, je peux plus croire tout ce qui est marqué sur les murs, je peux plus voir. La vie des autres, maman, peinture. Je suis pas là pour les sourires d'après minuit. M'en veux pas si ce soir j'ai envie. Casser la voix,
premier émoi aussi de cinéma, c'est Z, Costa Gavras, en 69, j'avais 10 ans. Et je sais pas pourquoi, à 10 ans, on est touché par un film comme ça. C'est très étrange. C'est cet homme qui va prendre la parole, qui prend un coup sur la tête, qui meurt, et ses idées qui restent comme ça. J'étais touché par ça. J'aimais cette musique formidable de Theodorakis. Ensuite, il y a eu Il était une fois dans l'Ouest, qui a été, alors là, qui m'a fait indirectement jouer un instrument pour la première fois, puisque je me suis pris un harmonica sur la plage d'Espagne où j'étais avec un grand peignoir marron, et je me prenais pour Bronson, et tout le monde prenait pour un dingue. Non, ils me prenaient tous pour un dingue. Hein. Ça, c'était à Villahermosa en Espagne, dans l'été 70, 71, je sais plus. Ils me prenaient pour un cinglé. C'est-à-dire que j'étais là avec mon harmonica, je fixais les gens dans les yeux, puis comme ça, j'étais là. Je disais, le gosse là-haut, là, du sixième étage, il est dingue.
Patrick Bruel, j'aime bien aller chercher les plus anciens documents qu'on a d'un artiste.
C'est très sympa, ça. Il faudrait aller chercher.
J'aimerais
bien écouter la série des interviews parce que
20 épisodes.
Parce que je pourrais répéter les mêmes mots aujourd'hui de la même façon.
En tout cas, voilà. Et puis auparavant, évidemment, Casser la voix, cet immense tube que vous chantez aussi toujours dans chaque spectacle.
Oui, qui est un des points culminants du spectacle.
Et est-ce que je me trompe, mais est-ce que c'est lié un petit peu à la découverte ou en tout cas à un spectacle de Jacques Higelin, la naissance de cette chanson?
Oui, c'était Francofolie 87. Après avoir vu cet artiste libre, tellement libre, je me suis dit c'est ça que je dois être. Moi, l'après-midi, j'avais fait un concert sur le parking du Gabu.
C'était mon premier. Sur le parking
du Gabu, il y avait une petite scène débutante.
Enfin, dans le cadre des Francofolies.
Et c'était super d'ailleurs l'après-midi. Puis j'étais resté voir Higelin. Et après Higelin, ben, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai traversé la nuit. J'ai erré de bar en bar à réfléchir et à me dire il y a quelque chose qui correspond pas trop parce que je viens de voir un artiste libre et c'est cet artiste que je veux être exactement. Et puis je suis rentré à l'hôtel, puis j'ai commencé à écrire. Si ce soir j'ai pas envie de rentrer chez moi, j'ai pas envie de fermer ma gueule, j'ai envie de me casser la voix. Je me suis mis à hurler. Il y a le voisin de chambre à côté à 6 du mat qui a tapé, qui ça va pas bien, non? Du coup, j'ai posé ma guitare et je l'ai ressorti 2 ans plus tard pour finir la chanson.
Et pour la forme des spectacles.
Quand je l'ai fait écouter à la Naro.
Pour la conception du spectacle, ça vous a un peu inspiré aussi?
Pour l'attitude sur scène?
Oui, c'est ça. Oui.
L'attitude sur scène, il y a Barbara et il y a Higelin.
Vous l'avez connu après Higelin?
Oh bien sûr, oui, je l'ai connu, il est même venu chanter en hommage à ce moment-là, il est venu chanter avec moi dans ma soirée spéciale des Francofolies en 94, c'était la fête à Bruel, et Higelin était venu en surprise me chanter « Je ne peux plus dire je t'aime », c'est fantastique.
D'un livre à l'autre, d'une source à l'autre, d'un article à l'autre, je sais plus, est-ce que Bruel, ça vient de Brel ou pas?
Non, pas du tout.
Pas du tout, non.
C'est ni Bruel, ni Bruant, et pourtant.
Ça pourrait être un mélange des deux.
Ah, vraiment, oui.
Ça vous irait bien, d'ailleurs.
Ça m'irait même extrêmement bien, enfin, j'en serais flatté surtout.
Mais donc, ça vient de?
Au moment où on faisait le coup de Sirocco, j'avais décidé de prendre un pseudonyme, et c'était pour le lundi, il fallait le mettre sur la feuille de service, et donc le samedi, on est avec mon oncle Pierre, et on a recherché dans l'étymologie la plus lointaine familiale, et on a cherché des noms un peu partout, et à un moment, on est tombé sur ce nom. On n'a jamais compris pourquoi il pouvait y avoir une origine de l'Aveyron dans notre histoire, mais bon, Bruel était là, c'est pas mal comme nom, et ça a bien sonné.
Et ça a bien sonné.
Nous qui sommes berbères sur plusieurs générations, je ne sais pas d'où ça vient.
On ne sait pas d'où ça vient. En tout cas, voilà, vous continuez d'aimer Bruel. Hein.
Bruel a compté énormément.
De le chanter même.
Ces artistes ont été là à un moment donné pour remplir leur rôle d'artiste, c'est-à-dire nous éclairer, penser nos blessures, parler à notre place, nous interpeller et nous demander de nous identifier. Brel, pourquoi est-ce qu'un gamin de 5 ans, en 64, est aussi touché par une chanson comme Amsterdam, pour être encore plus touché, même 2 ans plus tard, par Jeff?
Alors, autre question sur ceux qui vous ont fait de vous celui que vous êtes. Vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu Madame par Barbara?
Oui, parfaitement, puisque maman rentrait de Bobino en 67. Elle avait l'album, et ensuite l'album live est sorti. Et la première chanson, c'était Madame. Et j'ai été bouleversé par cette chanson. À la première écoute, ça m'a donné envie de connaître tout Barbara. Uh-huh. Et à partir de ce moment-là, commence une histoire d'amour avec Barbara qui va jamais s'arrêter, comme tous ceux qui nous écoutent et qui ont connu ce sentiment.
Oui, sauf que vous l'avez connu en vrai. C'est une histoire d'amour
bien plus tard,
de très près.
Bien plus tard. C'était quelqu'un qui a compté énormément. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'elle vient à ce point-là toucher un enfant entre 8 et 10 ans, ensuite un adolescent? Pourquoi elle vient réveiller des blessures? Pourquoi il y a une telle identification? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve? On le sait pas, on le comprend pas. On le comprendra peut-être à sa mort, quand il y aura les mémoires posthumes et qu'on connaîtra le drame qu'elle a vécu, qui n'a donc rien à voir avec ce qu'on a pu vivre nous. Mais il y avait quelque part une sensation filigranique à ce qu'elle dégageait, pour être touché par une chanson comme Au cœur de la nuit, ou être touché par Mon enfance, ou être touché par L'aigle noir, ou être touché par ces chansons-là, et par Madame.
Vous parlez de la douleur et des blessures, mais en même temps, tous ceux qui l'ont connue, et vous l'avez connue, disent que c'est une femme très drôle.
Très drôle, très vive, très... Ouais. Oui, oui, qui avait...
Elle n'était pas dans la vie comme dans ses chansons. Pas tout à fait.
Ces chansons, non, ces chansons avec tes... Mais comme on l'est tous. Ouais, oui. C'est notre meilleur moyen d'expression pour justement... On va pas étaler ces états d'âme ailleurs que dans notre travail, que dans nos œuvres. Je trouve que c'est, voilà, je suis ici avec vous, par exemple. J'ai envie de prendre ce plaisir, de vous parler, de vous raconter des, de vous laisser d'ailleurs découvrir des choses et puis les commenter, corroborer avec vous. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de gai. On vient pas, là, par contre, dans les chansons, à un moment donné, il y a dans cet album une chanson qui s'appelle Je l'ai fait 100 fois, qui est la plus importante de mon nouvel album.
On entendra tout à l'heure.
Qui dit ça.
Je reçois à l'instant où je rentre chez moi votre missive bleue, madame. 20 fois je la relis et mes yeux n'y croient pas. Pourtant c'est écrit là, madame. Et de votre douleur je me sens pénétrée, mais je ne pourrai rien, madame. Vous savez aujourd'hui qu'à l'avoir perdu, tout paraît brusquement infâme. Vous demandez pardon de n'avoir pas compris ce qu'était notre amour, madame. Vous n'aviez que ce fils, vous aviez peur pour lui, et vous l'avez gardé, madame. Ne me demandez pas ce qu'a été ma vie quand vous me l'avez pris, madame. Je me suis toujours tue, ce n'est pas aujourd'hui que je vous le dirai, madame. Maintenant pour que je vous revienne, et vous vieillirez seule, madame. Et ne m'en veuillez pas si je parais cruelle, mais je l'ai trop aimée, madame, pour qu'à la fin du jour, près d'une cheminée, nous évoquions ensemble, madame, celui qu'à vous et moi nous avons adoré, perdu tout ensemble, madame. Vous eussiez préféré je vous retrouve là, qu'il fût mort en héros, madame. Oui, c'eût été peut-être plus noble, je le crois, que de mourir d'amour, madame. Et qu'il soit mort ici ou qu'il mourût là-bas, auriez-vous versé moins de larmes? Il en a décidé, lui seul avait le droit. Il faut vous résigner, madame. Mais le chagrin m'égare, il faut me pardonner, j'ai mal de votre mal, madame, mais que faire et que dire puisqu'il s'en est allé? Je ne puis rien pour vous, madame. Pour la deuxième fois, il va nous séparer. Je ne reviendrai pas, madame, car le perdre de foi, c'est lourd à supporter. Vous me comprendrez bien, madame. Je reçois à l'instant où je rentre chez moi votre missive bleue, madame. 20 fois je la relis et mes yeux n'y croient pas. Pourtant c'est écrit là, madame. Et de votre douleur je me sens pénétrée, mais je ne puis plus rien, madame. Vous savez aujourd'hui qu'à de l'avoir perdu, c'est lourd à supporter, madame.
Quelle merveille.
Voilà, Patrick Bruel.
C'est une merveille parce que d'abord, vous avez une version là, qui est la toute première version
oui,
de la
j'aime
chanson.
J'aime bien les premières versions.
Et voilà. La chanson a nettement évolué par la suite.
Ah, ouais.
D'abord, il y a une phrase au début, parfaitement infâme, elle ne le gardera pas dès qu'elle va la chanter sur scène. Et puis sur scène, elle a certainement ce souci, comme ont beaucoup d'artistes, d'avoir peur peut-être qu'à un moment donné, il y ait de l'ennui et donc elle part en modulation. Et madame, et à chaque fois qu'elle la chantera à partir de ce moment-là, elle sera modulée. Tous les deux couplets, elle va moduler. Elle va moduler, monter d'une sa tonalité. À chaque fois pour redonner un souffle à la chanson. C'est extraordinaire de comparer les deux versions, si ça vous amuse un jour.
Intéressant ce que vous dites d'ailleurs de l'évolution d'une chanson, parce que vous-même, je sais que vous aimez bien faire, évidemment, faire du studio, fabriquer une jolie chanson, mais vous avez toujours dit qu'elles évoluaient aussi avec la tournée, avec le public, pour trouver vraiment
bien
leur esprit, leur forme définitive.
Elles arrivent à maturité une fois qu'elles ont été, chantées. C'est pour ça que on parle de Brel ou de ces artistes-là qui, à l'époque, faisaient 200 concerts par an, et créaient leurs chansons sur scène pour ensuite les amener à maturité et les enregistrer. Aujourd'hui, c'est le contraire. On enregistre les chansons et elles arrivent à maturité après 50, 60 concerts.
Oui.
Et donc, c'est souvent dans les lives que les chansons ont le plus de maturité ou de quintessence. Ben, merci d'avoir fait.
En tout cas, vous lui avez consacré, faut dire, tout un récital au Châtelet.
Un récital et un album.
Et un album.
J'étais très heureux de faire cet album qui s'appelait Très souvent, je pense à vous, puisque elle-même m'avait envoyé des fax à l'époque, quand je l'avais rencontrée. Elle s'adressait à moi par fax. Et dans un des fax, elle me demandait si tout allait bien, si le zénith se préparait bien. Et elle me disait très souvent. Elle avait signé par Très souvent, je pense à vous. Et je trouvais ça très joli. Donc j'ai appelé cet album comme ça, puisque moi, très souvent, je pense à elle également. Et cet album a eu plusieurs vertus. D'abord, je me suis fait vraiment très plaisir. Et l'autre vertu, c'était de faire découvrir Barbara à des gens qui ne la connaissaient pas. Et des gens qui venaient au concert et qui repartaient en allant acheter les disques,
les
de,
disques
Barbara.
De Barbara. C'est voilà. Beau, c'est bien.
J'aimais ça.
Barbara souvent va s'accompagner avec juste un piano. Bruel, il y a différentes variantes.
Enfin, juste un piano, mais souvent Roland Romanelli.
Et un bassiste, même parfois.
Et Daguerre.
Effectivement. Mais on vous entend, on peut vous entendre avec juste un piano, avec juste une guitare, oui. Ou avec un groupe de rock, ou avec l'orchestre. Ça vous attire pas trop, le grand orchestre?
Ah, si,
oui,
j'adore.
Autant.
J'adore.
Oui.
Je viens de faire à Montréal un spectacle avec l'orchestre symphonique de Montréal. C'était juste extraordinaire. C'était un luxe. Absolu. Et en plus, je ne me prive pas, quand il y a un orchestre symphonique, de proposer mes possibilités de ténor. Donc, je me lance dans les œuvres du grand répertoire, puisque un jour, Annette Charlot.
Vous avez chanté un peu d'opéra italien, non?
Oui, j'ai chanté Puccini, j'ai chanté le Nessun Dorma à l'Opéra de Versailles en 2004, j'ai chanté le Luce Vanestelle de Tosca en 2014 à l'Opéra Garnier.
C'était un plaisir, néanmoins, justement, il faut le rappeler, après cette dure période du confinement, de vous voir, vous, justement, alors, pour le coup, partir dans un projet totalement acoustique.
En fait, c'était une réponse à ce moment vécu pendant le confinement.
Tout simple, pour le coup.
J'ai vécu ce confinement de manière assez extraordinaire. Moi, j'ai aimé ce confinement. J'ai aimé vivre ce moment. J'ai aimé que pendant 5 semaines, je sois absolument tout seul chez moi. À part me déplacer pour aller voir ma maman et lui aider à lui amener des courses, j'ai vraiment vu personne pendant ces 5 semaines. Et j'étais très heureux que de pouvoir m'arrêter, de pouvoir lire, de pouvoir me ressourcer, de pouvoir. Et pourquoi j'étais heureux de le faire? Parce que le monde s'était arrêté. Et je ne suis pas capable de m'arrêter si les autres ne s'arrêtent pas. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire pour moi. Alors je faisais ces petits spectacles sur Facebook, en pensant qu'ils étaient extrêmement confidentiels, que je faisais ça pour quelques personnes qui me suivaient. Et puis quand on s'est aperçu qu'il y avait 20 millions de vues, ça m'a foutu un trac d'enfer. Mais je me suis dit, si 20 millions de gens sont rentrés chez moi, alors dans ce cas-là, je peux peut-être aller me déplacer avec ma guitare de la même façon et aller faire un peu le tour de France et de petites salles qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et en plus, de manière plutôt réfléchie, je me suis dit, si on retombe dans une vague d'annulation de concerts, ça sera plus facile d'annuler des concerts avec 400, 500 personnes qu'on pourra toujours arranger que des grosses salles à 5000, 10000. Et c'était super.
Est-ce que je dirais une bêtise, Patrick Bruel?
Sûrement pas.
Si j'ai l'impression que après Casser la voix, le premier album 89, dans les années qui ont suivi, c'était plutôt un Bruel presque chanteur pop, avec cette couleur, oui, assez rock, assez cassé d'ailleurs, et que à partir de peut-être la fin des années 90, un album comme Juste avant et d'autres, vous êtes devenu un chanteur peut-être plus intimiste et plus chanson française dans la lignée de ceux que vous aimez,
en fait,
de Souchon et de tous les autres.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux périodes. Il y a Alors Regarde, qui lui est vraiment dans la lignée, même s'il est fait à New York, qu'il a des consonances un peu pop rock, mais il est quand même avec des chansons assez intimes. Et puis derrière, il y a cet album qui s'appelle Bruel, qui est l'album 3, qui lui est enregistré à Power Station avec une vraie volonté rock, avec des sonorités. Et quand on réécoute cet album aujourd'hui, il est dingue. Hein, franchement.
C'est plutôt une alternance entre les deux.
C'était un hommage à mes années rock, à ce que j'ai grandi dans le rock.
Led Zepp, comme moi.
C'était ça. Donc j'avais envie de ça, en plus, tout simplement. Et avec Aldo Nova, qui était à l'époque guitariste de Bon Jovi, on s'est fait plaisir. Et cet album a donné lieu à une tournée 94-95 qui était dingue, vraiment dingue. Et quand on réécoute l'album aujourd'hui, c'est pur, pur rock, et il est super. Et ensuite, le temps passe, et puis on se dit, tiens, on va peut-être aller explorer d'autres univers.
Voilà,
et puis
ça.
À ce moment-là, mes frères rentrent dans la boucle, David Moreau et Fabrice Moreau rentrent dans la boucle avec moi, et là, ça apporte totalement une autre dimension, une autre couleur. Voilà, sans renier cette période rock ou la période pop. Après, on rentre dans autre chose, puis encore autre chose à chaque fois.
Voilà, chaque disque, chaque journée.
Parce que j'ai grandi au son de, comme vous le disiez, hein, ça va des Rolling Stones à Michel Sardou, en passant par Grateful Dead et Police et Zappa.
Et jusqu'à Souchon,
et Souchon qui va être une révolution pour moi.
Alors justement, tiens, on va écouter une chanson. Alors pour le coup, vraiment, je suppose, très autobiographique et très jolie, que j'adore. Je fais semblant.
C'est une chanson importante pour moi.
2006,
j'ai les musiques, tout est prêt, et je peine à commencer à écrire. Et on est en vacances, on est en 2005 exactement à ce moment-là, on est en vacances avec la maman de mes enfants, Amanda Sterz, et elle me sent qu'il y a plein de sujets, qu'il y a plein de choses, et que j'arrive à rien sortir. Et un matin au réveil, j'arrive au petit déjeuner, il y a une feuille posée sur la table, et il y a ce texte. Je fais semblant, et je lis ce texte, et ça me fout des larmes aux yeux, parce que ce qui me fout des larmes aux yeux, c'est de savoir que quelqu'un me connaisse si bien. Et que, en plus, ce soit la mère de mes enfants à ce moment-là, et qu'on attend à ce moment-là notre deuxième enfant, Léon. Je suis bouleversé par ça, donc je prends instantanément la guitare, je fais la chanson en 10 minutes, et puis derrière, la nuit qui va suivre, je vais écrire les 6 chansons les plus importantes de cet album, Des Souvenirs de Vent. Ça a été un déclencheur, et cette chanson, je fais semblant, oui, parce que je fais semblant de croire que je mérite tout ça, cette phrase.
La photo de classe. Le sourire rose d'une fille qui me dépasse. Le petit air malin qui suit mes grimaces. La vie qui trace. Les souvenirs qui n'ont plus assez de place. Et les grands airs qui me font boire la tasse. Le temps qui passe. Je fais semblant. Je joue au grand, je m'invente des papas. Des grands, des forts, à qui je ressemble pas. Mais qui me donnent la force de croire en moi. Je fais semblant. Je suis tremblant à l'idée qu'on ne m'aime pas. Je serre maman qui me prend dans ses bras. Je fais semblant que rien ne m'arrivera. M'arrivera. Premier frisson. On apprend la guitare sous l'édredon. Sa mère veut pas de moi, c'est un peu con. Les nuits s'en vont. Et ma première histoire monte dans l'avion. Mes larmes se mêlent au Brésil de mille temps. Première chanson. Je fais semblant. Je joue au mec à qui on ne la fait pas. Je suis absent, elle ne reviendra pas. J'embrasse des lèvres que je ne connais pas. Je fais semblant. Je prends ma voix sans vie à bout de bras. J'enfonce les portes où l'on veut bien de moi. Ça fait sourire, on dit qu'on me rappellera. On me rappelle pas. Et puis un jour.
La réentend là, comme je suis en concert, je me dis tiens, j'aimerais bien la glisser à un moment donné dans le.
C'est vrai, elle y est pas.
Elle y est pas là cette fois-ci.
C'est pas une chanson, c'est pas un grand tube.
Non, mais ça aurait pu être un grand tube, mais c'est une chanson très très aimée par les entre guillemets les fans.
Les femmes qui connaissent tout par cœur sur le bout des doigts.
Celle-là, oui, elle aime beaucoup parce que parce qu'elle me raconte énormément. Elle dit des choses très importantes. Pour, c'est une très jolie petite biographie cette chanson.
J'en viens à vos goûts musicaux, Patrick Bruel. D'abord, vous réécoutez, vous écoutez vos disques, vos concerts, honnêtement.
Avant les concerts,
avant.
Quand il s'agit de faire une liste pour essayer d'ordonner quelque chose, il y a beaucoup, beaucoup de chansons maintenant. Donc je réécoute un peu, et de temps en temps, mais j'ai beaucoup de plaisir à réécouter des chansons, parce que c'est pas tant la chanson qu'on réécoute, c'est tout l'environnement et tout le moment.
Tout ce qui s'est passé autour.
On a fait, ouais, où est-ce qu'on était à ce moment-là. Je sais exactement où j'étais quand je l'ai composée, celle-ci. Je sais exactement comment ça s'est passé. Enfin, voilà, ça raconte des choses. J'aime bien écouter. Et puis parfois, on écoute en se disant, c'est dommage que ce soit figé. On aimerait bien corriger ça, ça, ça et ça.
Bien sûr. Je voyais aussi dans votre livre de conversation avec Claude Askolovitch, qui est un livre d'ailleurs surprenant parce que c'est une grande conversation d'un seul trait.
Oui, qui était en 2009. Voilà. Une conversation avec des choses qui sont assez.
Vous partez un peu de tous les côtés, tout ce qui vous vient à l'esprit l'un et l'autre.
Il y a des choses qui sont assez visionnaires finalement.
Et alors, là, je crois que c'est là que je voyais que vous aviez des discussions passionnées justement avec votre frère David François Moreau sur le Sacre du printemps. Et la façon dont Stravinsky composait, les différentes versions. En tout cas, lui, apparemment, est un véritable érudit en matière de musique classique.
Musique classique. Et
c'est vous qui l'avez poussé, d'ailleurs, tout jeune.
Ben oui, puisque dès qu'il est né, avant même de naître, il l'entendait. Je mettais à l'époque la méthode de Laurence Pernoud. Je lisais les bouquins avec ma mère.
Parce que
j'avais 12 ans quand ma mère.
Parfois, les grands frères sont un peu jaloux des petits, mais vous, c'était le contraire. Vous étiez en adoration devant les petits derniers.
Ben, moi, c'était le plus beau cadeau.
Vous occupiez d'eux quasiment tout le temps.
Ben, c'était le plus beau cadeau quand il est arrivé. Mais c'est vrai qu'avant qu'il naisse, sur le ventre de ma maman enceinte, je mettais un casque avec des écouteurs pour qu'il y ait de la musique. Et puis, on ne sait pas si cette musique lui est arrivée. Mais par exemple, j'avais mis la musique du bon La Brute et le Truand d'Ennio Morricone, ce chef-d'œuvre d'Ennio Morricone. Et je faisais ça. Tiens, vas-y, il va écouter ça. Ma mère me laissait faire en pensant que j'étais complètement dingue. Mais pas grave. Et puis, il m'est arrivé un jour, dans son berceau, il devait avoir 2 ou 3 mois, et de lui faire... Et il s'est mis à sourire.
Ah, c'est bien. Oui.
J'ai dit à ma mère, regarde, ça a marché.
Et vous l'avez poussé à faire du piano.
Oui,
et il
oui.
est devenu musicien.
Il est devenu musicien. Et
en fait, il a une grande culture musicale.
En fait, je lui ai acheté un piano quand moi j'avais 18 ans, lui avait 6 ans. Et je lui ai acheté un piano. Ça a été le premier piano qui est rentré à la maison parce qu'à l'époque, moi, je n'avais pas de piano. J'avais un petit peu souffert de ne pas avoir de piano à l'époque parce qu'on ne pouvait pas. Et donc, ça a été ce premier piano. Et puis, il me l'a bien rendu puisqu'il rentre dans l'histoire à partir de juste avant et il va réaliser juste avant l'album des années 30.
On va d'ailleurs en écouter un petit extrait.
Et l'album des souvenirs de vent. Enfin, il va faire 3 albums et l'album Barbara.
Et l'album Barbara.
Avec des arrangements musicaux derrière. Enfin, David, il est un compositeur. Il fait de la musique de film, de la musique de ballet, de la musique contemporaine.
Voilà. D'où sa connaissance de Stravinsky, entre autres.
Ah bah, c'est un puits de culture musicale.
Quand on a parlé juste avant l'émission un peu de vos choix musicaux, alors il y en a un qui m'a fait plaisir mais qui m'a surpris, c'est Call It Magic, que je connaissais évidemment par Donna Summer, mais j'avais oublié que c'était une chanson de Barry Manilow, qui est quelqu'un que vous connaissez, enfin qui vous intéresse.
C'est Barry Manilow qui crée la chanson, ensuite Donna Summer en fait un tube, et ensuite elle est reprise, traduite en français par Alain Chamfort et tout, enfin bon, chanson est extraordinaire.
Alors, du coup j'ai ressorti l'original,
et en fait le véritable original,
c'est Chopin.
C'est le prélude en deux mineurs de Chopin.
Voilà.
Et c'est extraordinaire.
Alors les gens qui dansent sur Donna Summer se rendent pas toujours compte, mais c'est exactement littéralement
les harmonies. Sur les harmonies, avec les tout.
Voilà. Et là, on va donc retrouver l'enregistrement original qui est bien avant Donna Summer. C'est 73, c'est par Barry Manilow lui-même.
Voilà.
Ce grand musicien donc américain.
Exceptionnel. Hein.
Et j'ai gardé un petit bout. On n'avait pas la place de tout mettre, mais justement, il joue au début le prélude de Chopin tel quel, avant d'enchaîner sur la chanson.
Baby, I want you now.
Et voilà donc l'original d'un des plus grands tubes que nous devons à notre grand Chopin, Patrick Bruel.
Et ce qui est magnifique, c'est que Barry Manilow assume et dit, en faisant ce prélude, il dit que c'est Chopin. Alors qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont permis d'aller chercher dans les œuvres, et notamment du 19e, sans pour autant citer leurs sources. Et c'était le cas de All By Myself, évidemment, ou c'est le 1 de Rachmaninoff, hein, ouais. Dedans. C'est toujours mieux d'être inspiré. Mais Gainsbourg a été
aussi
très inspiré
de la même façon,
par Chopin, évidemment.
Par Chopin, bien sûr. Patrick Bruel, on sait que vous êtes un homme et un artiste engagé. En tout cas, vous avez pris la parole souvent sur des grands sujets de société, de politique et autres. Vous n'êtes pas trop désespéré en ce moment devant la situation du monde entre Israël, la Palestine, la Russie, l'Ukraine, le PS, LFI, etc. Vos convictions qui pouvaient sembler bien établies ne sont pas telles.
Bah, vous savez, dans le livre d'Askolovitch, il y avait quand même une phrase qui avait fait bondir certaines personnes à l'époque. Quand il me pose la question, il me dit « Est-ce que tu es toujours de gauche ?» Je lui dis « C'est devenu un peu compliqué d'être de gauche. Être de gauche, c'est quoi? Est-ce que c'est être lobotomisé par la gauche de sa gauche? Ou quoi? » Je lui réponds cette phrase-là. À l'époque, on m'avait un peu tensé. Ben, aujourd'hui, ça fait sens, non? Enfin, pour moi, en tout cas, ça le fait. Ouais, c'est un peu compliqué aujourd'hui de se situer dans cette époque où tout est régi par la peur. Et donc,
la peur est omniprésente dans tous les domaines.
Et engendre le repli sur soi. Ouais. Donc, c'est contre ce repli sur soi qu'on essaie de réagir, mais c'est, oui, en effet, c'est très difficile. On va pas aborder tous ces sujets entre la poire et le fromage, si j'ose dire, si tant est que Chopin.
Mais vous les abordez, je veux dire, toujours d'une certaine façon sur scène, pas forcément ces sujets-là, mais vous parlez.
C'est un spectacle particulièrement engagé, celui-ci.
Exactement.
Il y a beaucoup de sujets qui sont sur le devant de la scène, et que je traite à ma manière. Nous, artistes, si je peux me permettre de dire ça, on a une mission qui, quand même, à l'arrivée, est une mission rassembleuse. On doit rassembler, on doit essayer de tendre vers des possibilités de paix et vers des possibilités d'apaisement, mais tout en nommant les choses, tout en disant les choses. C'est important. Je cite cette phrase de Camus sur scène. Ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et aujourd'hui, plus que jamais.
En tout cas, Patrick Bruel, je voudrais revenir sur deux disques que j'aime beaucoup, juste avant et entre deux. Balade dans le temps, quoi, dans le temps de la chanson, c'est ce que vous aviez voulu faire, hein, avec les années 30, et puis l'entre-deux-guerres, disons, et puis aussi le côté un peu manouche.
L'entre-deux-guerres, c'est-à-dire qu'en fait, ces chansons m'ont toujours touché, particulièrement. Ouais, ouais. J'ai commencé à les découvrir et à les aimer en voyant Le Dernier Métro de Truffaut. Ouais. Au générique du film, il y avait cette chanson, Mon amant de Saint-Jean, et j'étais resté à la séance suivante pour réécouter la chanson, tellement je trouvais cette chanson magnifique. Elle m'a toujours accompagné, puis un jour je m'étais dit, tiens, et pourquoi on n'écouterait pas, on dépoussiérerait pas un peu plus ces musiques que ma mère n'écoutait pas, parce que ma mère écoutait les nouveaux, les jeunes, c'est-à-dire elle écoutait Brel, elle écoutait Brassens, elle écoutait Ferré, elle écoutait tout ça, elle écoutait pas Charles Trenet ou Maurice Chevalier. Voilà. Et j'ai essayé de ramener, j'avais emmené ma mère voir Trenet. Elle avait été vraiment séduite, parce que c'était pas du tout sa culture. Et puis, à partir du moment où on plonge dans Trenet, on ouvre vers Fréhel, on ouvre vers Damia, on ouvre vers Lucien de Lille, et on ouvre un répertoire exceptionnel. Et quand on a entendu Sombre Dimanche de Damia, à ce moment-là, on se dit il y a des choses à écouter. C'est là que mon frère David a été convaincu de faire l'album avec moi, parce qu'avant il ne voulait pas, ça ne l'intéressait pas. Je lui ai dit écoute d'abord deux trois trucs. Et quand il a écouté Sombre Dimanche de Damia, il a dit oui, là il faut y aller, il faut faire des choses.
Et puis ça vous a permis aussi de faire appel après Odette Laure, Pierrette Bruno ou encore Micheline Boudet à une autre très grande dame qu'on retrouve avec vous à Paris dans chaque faubourg.
Ah, oui.
À Paris, dans chaque faubourg, le soleil de chaque journée fait en quelque destinée éclore un rêve d'amour.
Parmi la foule, un amour se pose sur une âme de 20 ans.
Pour elle, tout se métamorphose, tout est couleur de printemps.
À Paris, quand le jour se lève, à Paris, dans chaque faubourg, à 20 ans, on fait des rêves, tout est couleur d'amour.
Ils habitaient le même faubourg,
la même rue et la même cour. Ils lui lançaient des sourires,
elle l'aimait sans lui dire.
Mais un jour qu'un baiser les unit,
dans le ciel elle crut lire comme un espoir infini.
Daniel Darieux, c'est un bon souvenir, Patrick Bruel?
C'est un merveilleux souvenir. Elle était arrivée... En fait, on savait qu'on allait tourner ensemble dans le film de Thierry Cliffa, Une vie à t'attendre. Et c'est là que l'idée est venue, avec David, de lui proposer d'être dans cet album, mais de pas chanter une chanson qu'elle avait chantée, elle. Chanter une chanson de cette époque.
On a enregistré beaucoup, évidemment.
Et on lui a demandé si ça l'intéressait. Elle a adoré l'idée de chanter à Paris dans chaque faubourg. Elle est arrivée au studio d'Avou, avec sa Smart. Elle était pimpante, hein. Vraiment, tellement charmante. Elle a fait, je crois, une prise ou deux maximum. Et puis voilà, ce moment qui est pour moi un moment de grâce.
Ah bah oui.
J'ai chanté avec Daniel Darieux. Ouais, j'ai joué avec Daniel Darieux dans le film ensuite. Et c'était quelqu'un de absolument délicieux.
Bon, on pourrait faire la liste des j'ai chanté avec. Vous avez chanté avec Johnny Hallyday.
Ah bah dans cet album, c'est assez édifiant. Parce que dans cet album entre deux, il y a Johnny, il y a Souchon, Woolsey, Cabrel, Goldman, Aznavour.
C'est un disque de duo quasiment.
C'est un, il y avait 12 duos et 12 chansons seules.
Et 12 chansons seules, voilà. Aznavour, justement, j'y reviens. Ah, j'avais failli, je m'étais dit, tiens, on va parler un peu de poker. J'ai passé la chanson poker d'Aznavour, mais vous n'avez pas du tout. Hein.
Elle n'est pas du tout, Aznavour. Elle n'est pas terrible. Moi, j'adore Aznavour. Il a écrit de tels chefs-d'œuvre. Et notamment, Je n'ai rien oublié, qu'on a eu la chance de chanter au Resto du Cœur récemment. Ce petit chef-d'œuvre qui est Je n'ai rien oublié, j'aurais pu mettre dans ma liste, vraiment. Non, le poker, on peut en parler sans passer par la chanson d'Aznavour qui n'est pas sa meilleure.
En gros, vous jouez toujours.
Oui, les grands tournois internationaux.
C'est vrai.
Non, j'ai pas le temps de jouer beaucoup, mais les gros tournois, je me bloque une semaine ou deux pour essayer de toujours exister sur la scène internationale.
Bon, en tout cas, Patrick Bruel, je voulais, aussi, avant de finir, puisqu'on s'est dit qu'on allait écouter des petits choix musicaux que vous m'avez proposés, parler un peu de votre fibre brésilienne. C'est relativement important aussi dans votre vie, le Brésil.
Très important.
Outre la France et les États-Unis, il y a aussi le Brésil.
Bah, le Brésil, c'est une rencontre quand j'ai 16 ans, où je rencontre la meilleure amie de Marion, qui est, elle, ma meilleure amie à ce moment-là. Et cette meilleure amie s'appelle Patricia. Elle est brésilienne. Elle arrive avec une guitare un après-midi comme ça, là où on est chez Marion. Et puis, on se parle même pas. Elle sort sa guitare, je sors la mienne. Moi, je connaissais pas sa musique. Elle chante ses chansons, les chansons de Vinicius, les chansons de Baden Powell, de Tom Jobim, toutes ces chansons.
Vous connaissiez pas trop la bossa nova?
Je la connaissais pas du tout. Pas du tout.
Ah oui.
Mais pas du tout. Et je suis séduit par les musiques, la mélodie, par cette fille.
On
tombe amoureux, on a une très belle histoire qui va durer 5 ans et je vais apprendre cette musique. Et la chanson qui symbolise, il y a le Samba Preludio de Vinicius qu'on a chanté ensemble, mais la chanson qui symbolise cette rencontre et qui symbolise mon coup de foudre pour la musique brésilienne, c'est ce très grand poète qui est Chico Buarque et ce chef-d'œuvre qu'il avait écrit avec Milton Nascimento qui s'appelle Xela.
Il faut rappeler d'ailleurs que Chico Buarque est à la fois écrivain et chanteur, hein.
Oui, homme d'État. Enfin,
c'est homme d'État, oui. Type, vous l'avez rencontré?
Oui, bien sûr. On a chanté ensemble.
Vous avez chanté ensemble?
À Taratata en 94. Ouais. Il m'a fait l'honneur de venir chanter avec moi cette chanson.
O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
Et voilà, c'est notre petit voyage musical bruelien. J'aime bien faire ça avec mes invités, surtout quand ils reviennent.
Ça fait très plaisir parce qu'on fait le voyage avec vous et moi, je viens d'avoir un paquet de souvenirs qui viennent de m'envahir. Là, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup pour ça.
Patrick Bruel, vous êtes retourné en Algérie l'an dernier. C'était la première fois.
Première fois.
Depuis votre départ en 62?
Ouais, 62, j'avais 3 ans.
Quand tout le monde est parti, enfin, tous ceux qui sont partis.
Et on est revenu la main dans la main avec ma mère à Tlemcen le 1er février dernier pour un voyage extraordinaire puisque elle est à la recherche de ses souvenirs et moi de ceux que j'avais pas eu. Et ça a été un voyage au-delà des espérances parce que...
Vous avez chanté?
À la fois fondateur. J'ai pas chanté, si, il y a eu un soir, on s'est retrouvé dans une soirée rail à Oran où là j'ai chanté un peu avec les musiciens. Mais c'était le bonheur de voir ma mère retrouver...
Ses souvenirs, bien sûr. Ouais.
Et puis surtout l'accueil des Algériens.
C'est vrai.
C'était extraordinaire. Ça se résumait à bienvenue chez vous, bienvenue chez toi, merci d'être là, merci d'être venu. Et quand je suis rentré en France, et encore aujourd'hui, et encore il y a 5 minutes, en bas dans le hall de Radio France, une dame, visiblement algérienne, m'a dit merci d'être allé là-bas, qu'est-ce qu'on est content.
Ah oui.
Est-ce que vous avez aimé votre voyage? Est-ce que... Mais c'est tous les jours depuis qu'on est rentré l'année dernière. Il n'y a pas une journée où une fois, deux fois, trois fois par jour, on ne m'évoque pas ce voyage ou un souvenir. Ça a fait plaisir aux gens parce que tous les rapprochements possibles entre la France et l'Algérie feront à l'arrivée plaisir aux gens.
C'est pas toujours vraiment le cas.
Et ben, il faut œuvrer pour ça. Et si ce voyage peut être le vecteur de quelque chose, et je pense que c'était certainement le souhait de M. Tebboune au moment où il m'avait demandé de venir, c'est lui qui m'avait sollicité pour que Patrick Bruel, entre guillemets, revienne en Algérie et qui plus est avec sa maman. Donc, à ce moment-là, les autorités algériennes ont... Je suis allé, j'ai dit « Ok, allons-y, quel plaisir ».
Voilà, c'était il y a un an à peu près, en février 2023.
Et c'est évoqué dans le spectacle à un moment donné, bien entendu avec la chanson et avec un petit film qui évoque le voyage.
Alors le spectacle, hein, vous n'arrêtez pas. Hein. Hier, vendredi soir, vous étiez à Paris,
à Bercy. C'est pour ça, il n'y a plus de voix, vous entendez.
Il n'y a plus de voix. Là, ça s'enchaîne sans discontinuer. C'est pas fatigant une tournée?
Non. Ce qui est fatigant, c'est la préparation. Ce qui est fatigant, c'est plutôt les dates parisiennes, parce qu'il y a aussi la vie quotidienne. Mais à partir du moment où la tournée commence, donc à Strasbourg, le 20, mercredi, à partir de Strasbourg, je pense que ce sont les vacances de musiciens.
Oui, c'est un pur plaisir.
On est heureux. Quoi. Le soir, on fait ce qu'on aime le plus au monde. Et la journée, on est là dans des villes, on découvre. On est ensemble avec les musiciens, avec tout. J'aime beaucoup ce moment-là, moi.
Et ça coïncide donc avec l'édition de Une fois encore, c'est-à-dire la deuxième version de l'album Encore une fois, avec donc des titres nouveaux que vous avez ajoutés à découvrir.
Oui, il y a 4 ou 5 titres inédits.
Est-ce que celui qu'on va entendre maintenant, par contre,
il était déjà dedans.
Il est dans la première version et c'est une chanson avec laquelle on va se quitter, mais qui vous est particulièrement chère.
Je la trouve très belle.
Je l'ai fait 100 fois.
C'est une des plus belles que j'ai jamais chantées. C'est peut-être la plus belle de cet album, en tout cas. Et tout le monde peut s'y retrouver à condition d'accepter de regarder dans le miroir sans complaisance.
Merci beaucoup,
merci
Patrick
à vous,
Bruel, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, c'était un beau voyage.
Pour moi aussi, un très beau voyage.
Merci
à
beaucoup.
À bientôt, j'espère.
As-tu rougi tes yeux que tu aimais si fort, brisé des cœurs amis sans raison ni remords? Attends-tu trop souvent bien plus que tu ne donnes, submergé par la peur que l'on t'abandonne? As-tu déjà haï tout ce que tu es, rêvé d'être celui que tu ne seras jamais? As-tu déjà maudit tous les passants qui s'aiment, priant que ce soit toi qu'un jour ses bras étreignent? As-tu redouté du matin qui se lève, l'aiguille assassine jusqu'au jour qui s'achève? As-tu imploré les diables et les dieux, que le temps se suspende, que tu respires un peu? As-tu réécrit 1000 fois dans ta tête l'histoire de ta vie, oubliant tes défaites? T'es-tu épanché sur l'épaule de ton père? Ou en as-tu rêvé si tu n'as pu le faire? Moi je l'ai fait 100 fois. Redoutes-tu de la vie qu'elle soit trop peu féconde pour calmer ton ardeur de découvrir le monde et voir d'autres visages, entendre d'autres mots bordés de paysages et d'un ciel nouveau? Pour conjurer la mort, t'accroches-tu à la vie en existant trop fort de peur que l'on t'oublie? As-tu déjà offert des sourires de façade, un bonheur éphémère comme un château de sable? Moi je l'ai fait 100 fois. Moi je l'ai fait 100 fois. Moi je l'ai fait sans toi.
Je l'ai fait 100 fois, un très beau titre extrait du dernier album de Patrick Bruel, encore une fois, et qui sera au cœur, avec beaucoup d'autres chansons, de la tournée de Patrick Bruel un peu partout en France en ce moment. Toutes les dates à retrouver sur patrickbruel.com. Et c'était Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Jean-Louis Deloncle, réalisation des vies travailleurs. Samedi prochain, c'est un grand auteur-compositeur que j'aurai le plaisir de recevoir, monsieur François Bernheim. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique. Et sur France Musique, et bien maintenant vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.